Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Je me souviens quand j'ai commencé à lire la Bible de façon au moins plus qu'un chapitre, j'ai lu Matthieu chapitre 5, 6 et 7. Je les ai lus dans un trait. Je les ai lus dans un monastère à Sainte-Anne-de-la-Pérade, dans une retraite de silence organisée par les frères de l'école où j'étais pensionnaire. Puis j'ai revisité ces versets-là juste pendant les louanges. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi est-ce que quand que j'ai vécu cette expérience de lire la Bible puis de sentir Dieu comme un père, pourquoi est-ce que c'était si fort cette idée de paternité de Dieu? Et j'ai juste regardé un petit peu les versets, puis on voit dans Matthieu 5 déjà, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Il parle de convoitise, il parle de mariage, il parle de toutes sortes de péché, puis il dit à ses auditeurs, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Dans Matthieu 6, il parle des finances, puis il dit, « Inquiétez-vous pas, votre Père qui est dans les cieux, il sait que vous avez besoin de ces choses-là. Vous inquiétez pas. » Il nous dit aussi, « Quand tu pries, ferme la porte. » Puis le Père qui est dans le secret, bien, il va te voir, puis tu sais, il va t'entendre. Puis faites pas des prières pour être reconnu devant les hommes, puis... Fait que là, tu vois des versets sur le Père. Inquiète-toi pas, tu sais, de ce que tu vas manger, parce que c'est ça, ton Père, il est riche en ressources, il va te donner tout ça. Puis là, tu lis encore le chapitre 7, puis le Père. Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, il nous a parlé qu'il n'y avait pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, mais c'est à peu près les seules places que tu vois la croix préparée. La croix comme étant la bonne nouvelle, le message de la bonne nouvelle. C'est quoi que Jésus n'arrêtait pas de nous dire? Jésus n'arrêtait pas de nous parler de son Père. Ah, le Fils travaille, fait que le Père travaille, fait que le Fils travaille. Je ne suis pas venu vous parler de moi, je suis venu vous parler du Père. Jésus était toujours en train de nous parler du Père. Et donc, c'est important ce matin qu'on comprenne que l'Évangile éternel, qui était là bien avant qu'on connaisse Jésus-Christ, c'était bien verbalisé dans Hébreux 2.10, qui dit qu'il convenait que celui par qui toutes choses existent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il éleva à la gloire, quoi? Il va beaucoup de fils, et on pourrait dire de filles aussi, à la gloire par la perfection et les souffrances, le prince de leur salut. Donc, il éleva le Fils de l'homme à la croix pour conduire plusieurs filles et plusieurs fils à la gloire. L'Évangile éternel, ce n'est pas que Christ vienne mourir sur la croix, c'est que Dieu se fasse des fils et des filles pour sa gloire et qui offre à tous ceux qu'il a créés de les joindre à lui dans une unité organique ou familiale qui les raccorderait à lui et les amènerait avec lui dans la gloire. Ça, c'est l'Évangile éternel. Elle existe de tous les âges, cet Évangile-là. Que Dieu, notre Créateur, il veut avoir une relation avec nous, puis il a le droit d'être obéi, mais il veut certainement cette relation-là familiale d'être un père. C'est important que je dise ça en introduction parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de l'adoption. On va aller aux acétates. Les versets qui vont être concernés par ça, c'est Galates 3.15 à 4.11. Contrairement à mon dernier message, je n'ai pas lu ces versets-là, mais si vous êtes allé lire, vous avez vu que ça parlait du sujet de l'adoption. Aujourd'hui, on va les lire. Fait que si vous avez vos Bibles, ça serait intéressant que vous tourniez parce qu'on ne les lira pas nécessairement à l'écran, ces versets-là. L'adoption, c'est l'acte par lequel une personne est établie en tant que fille et fils de Dieu d'âge mûr. On va en parler un peu plus tard, qu'est-ce que ça implique d'être un fils et une fille d'âge mûr. La semaine dernière, on a parlé que Dieu nous avait fait passer d'esclaves à fils. Puis on a vu que tout ce à quoi on s'était livré, qui n'était pas Dieu, est devenu notre maître. Et on a vu qu'on avait un cœur idolâtre, même si nous, on ne fait pas devant des statues en or ou en bois, qu'on peut avoir placé dans la création quelque chose qui avait un amour démesuré pour quelque chose dans la création qui était démesuré ou plutôt désordonné. C'est-à-dire que c'est ce qui dirigeait nos vies. Certains, c'est leurs enfants. D'autres, c'est d'avoir une carrière. D'autres, c'est différentes choses. Et on a vu qu'on avait un cœur idolâtre avant de venir à Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce que je vais faire, le titre de mon message, c'est l'implication du Saint-Esprit dans votre adoption. Lorsqu'on lit le chapitre 3 puis le chapitre 4 de Galates, c'est facile de passer rapidement puis de ne pas voir toute la progression que Paul fait pour convaincre l'Église de Galates que le Saint-Esprit, du début jusqu'à la fin, il est impliqué dans cette adoption-là qu'on a eue de la part de notre Père. Galates 3.1 commence avec ce verset. « Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a-t-il été dépeint comme crucifié? » Mais avant de lire ce verset-là, voici ce qu'on va voir aujourd'hui, l'implication du Saint-Esprit dans le passage de Galates 3.1 jusqu'à 4.11. Premièrement, le Saint-Esprit, il a été reçu lorsqu'on a cru à l'Évangile. Lorsqu'on a cru à la bonne nouvelle, on a reçu en nous le Saint-Esprit. Deuxièmement, le fait que le Saint-Esprit nous ait été envoyé, c'est le résultat d'une promesse plutôt que d'un contrat. Ce n'est pas à la suite de l'examen minutieux de notre vie et de nos œuvres que Dieu a dit « Ah, tiens, je vais leur envoyer le Saint-Esprit. » Troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Il parle du mot baptême, on va comprendre pourquoi c'est important que ce soit comme ça, le baptême du Saint-Esprit. Et quatrièmement, le fait que le croyant est un héritier lorsqu'il est adopté. Donc ça, c'est comme quatre grandes vérités qui sont tout au long des deux passages. Premièrement, l'Esprit a été reçu quand l'Évangile a été cru. Galates 3.1, je recommence. « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Aux yeux de qui Jésus-Christ a-t-il été dépeint comme crucifié? » Verset 2. « Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi? Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? » Paul dit, « Revenez au moment où vous avez reçu le Saint-Esprit. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, c'est-tu parce que vous aviez obéi à la loi ou bien non, c'est parce que vous aviez cru à une prédication de la foi qui était le message de l'apôtre Paul, le message de la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit a été donné lorsqu'on a cru à la bonne nouvelle. Hein? Et donc, au verset 6, après ça, il dit, comme Abraham crut à Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a cru? Abraham a cru qu'il aurait un enfant dans son vieil âge et que ce fils-là serait le père d'une progéniture par laquelle Dieu bénirait toutes les nations de la terre. Abraham a cru à Dieu et la Bible dit, cela lui a été imputé à justice. Ça a tellement une valeur que dans l'original, c'est écrit, Dieu lui comptabilisa comme justice. Donc Dieu l'a déclaré juste parce qu'il a vu la foi dans le cœur d'Abraham. Comme tu disais, Philippe, dans notre réunion mercredi, Dieu voit les secrets des cœurs. Et donc, il a vu la foi dans Abraham et il l'a déclaré juste sur la base de sa foi. Et donc là, le verset continue au verset 7. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. » Ici, ce n'est pas l'allégorisation de l'Écriture. Ce n'est pas, on va voir plus tard, que c'est vraiment physiquement quelque chose qui est arrivé. On est fils d'Abraham à cause... Ce n'est pas une allégorisation. Une allégorisation, ça veut dire faire une image de quelque chose. On va le voir plus tard. Donc, il dit, « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » Abraham a cru. Cela lui a été compté comme justice. Vous avez cru, votre foi a été comptée ou comptabilisée comme justice, de la même manière qu'Abraham. Okay? Et donc, la loi, qu'est-ce qu'elle pouvait faire? La loi pouvait que condamner. Du verset 10 au verset 13, c'est écrit que « Maudit est celui qui est pendu au bois ». Et puis, la désobéissance amène la malédiction. En tout cas, du verset 10 au verset 13, ça nous explique vraiment que si tu veux être approuvé par la loi, ben tu vas être puni. Parce que dans le fond, de la loi vient la connaissance du péché. Et donc, c'est un ministère de mort ou un ministère de condamnation. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Et que personne, par les œuvres de la loi ou parce qu'il fait quelque chose pour plaire à Dieu, va être amené à un endroit où Dieu va dire, j'ai vu ta justice et donc je te fais participer à un héritage futur. Il y a deux entités. Je vais l'illustrer tout au long de mon message avec une ligne ici qui est la ligne du temps, on pourrait dire. Il y a deux entités qui sont présentées dans les passages qui vont suivre. Il y a les Juifs et les non-Juifs. Hein? Et il dit que Dieu justifierait tous les païens par la, qui justifierait les païens par la foi, ben c'est nous autres ici. C'est l'église de Davelouville, c'est l'église de Galate. C'était principalement des gens comme nous autres qui n'étaient pas de nationalité juive. Et Dieu prévoyait d'avance qu'il justifierait aussi tous les non-Juifs. Bien sûr, les Juifs aussi. Mais qu'il justifierait par la foi, c'était déjà annoncé d'avance. Par la loi, je suis condamné. Par la foi, je suis justifié. Mais là, vous allez dire, mais nous, on n'était pas sur la loi de Moïse. En effet, nous n'étions pas sous la loi de Moïse, donc on ne pourrait jamais être amené en jugement, dans le fond, devant Dieu, à cause qu'on a transgressé la loi de Moïse. Et Paul le savait très bien lorsqu'il a écrit Romains. Il a commencé avec Romains 1. Il dit, regardez, la perfection invisible de Dieu se voit comme à l'œil nu quand on le considère dans sa création. On voit que Dieu est là, qui est le Créateur, qui est impuissant. Ils n'ont pas glorifié le Créateur et ils sont inexcusables. Déjà, n'importe qui a vu la création. On tasse. Chapitre 2. En passant, si vous faites le bien, vous démontrez par là que la loi est écrite dans votre cœur. Paul y montre que tous les hommes ont été créés avec une conscience et que leur conscience les amène à chercher à obéir à ce Créateur-là. Parce qu'ils ont l'image du Créateur en eux, ils ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. Et il dit que justement, d'une certaine manière, l'homme va arriver à un endroit où il sait qu'il a transgressé, même s'il n'y a pas de loi. Au chapitre 3, là, il va dire, ah, OK, mais là, est venu Jésus-Christ, la loi et tout ça, et là, il va parler aux Juifs. Donc, il va parler à peu près à tous les humains, dans le fond, puis au chapitre 3, verset 19, il va arriver à un endroit où il va dire, nous avons prouvé que tous sont sous l'empire du péché, juifs et non-juifs. Donc, même si nous n'avons pas la loi de Moïse, nous avons une conscience. Nous savons que nous avons une fois désobéi, certainement. Et à cause de ça, nous sommes aussi condamnés. Le verset 14 dit, « La bénédiction d'Abraham a eu pour les païens, pour nous autres, son accomplissement en Jésus-Christ pour que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Dans l'Ancien Testament, vous avez beau fouiller d'un bord à l'autre, vous pouvez chercher, faire des études dans la langue originale, vous ne trouverez pas que le Saint-Esprit va venir habiter le croyant. On voit que le Saint-Esprit, dans l'Ancien Testament, il vient sur et des fois on dit « dedans ». Mais il ne vient pas habiter de façon permanente, il vient comme sur les rois, sur les prophètes et les sacrificateurs pour une parole de prophétie, pour un miracle particulier, mais il n'est pas un résident permanent. Et la bonne nouvelle que le Saint-Esprit viendra dans nous, c'était quelque chose qui était complètement caché. Et donc, la promesse, c'était que toutes les nations seraient bénies en Abraham, puis le verset nous dit que, regarde, verset 14, si vous avez vos Bibles. La bénédiction d'Abraham a eu pour effet, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, il avait été promis qu'on serait bénis de toutes les nations de la terre, on serait bénis, mais il n'avait pas été, c'était pas clairement, mais là, il y a une nouvelle connaissance. Paul a cette connaissance-là, l'Église a cette connaissance-là, que là, ce qui est béni, c'est que le Saint-Esprit, la bénédiction, en fait, c'était que le Saint-Esprit viendrait vivre en nous. Et ça, c'est important dans Galates 4 qu'on comprenne ça. Colossiens 1, 26 et 29, écrit aussi par Paul, dit « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. » Là, Paul dit, c'est un mystère parmi les non-juifs. C'est un mystère. Mystère ne veut pas dire quelque chose comme le ministère de la caramel que tu ne sauras jamais tout à fait comment c'est fait, mais c'est quelque chose qui est caché et que le voile a été ôté. Hein? Le mystère, c'est que tu ne pouvais pas le voir, puis à un moment donné, le voile a été enlevé. Et là, tu as pu le comprendre. Ce n'est pas quelque chose qui est inexplicable, c'est quelque chose qui est caché. Et donc, ce qui était caché, c'est que Christ viendrait vivre en nous par le Saint-Esprit et que lui serait l'espoir, bon, votre futur, oui, par là, l'espoir de la gloire future. C'est-à-dire que j'ai reçu Christ en moi, j'ai l'espoir de la gloire future et je l'ai reçu maintenant. J'ai reçu ça par son Saint-Esprit qui habite en moi. Christ en moi, l'espoir de la gloire future. C'est pour ça qu'on croit à la sécurité éternelle, que le salut ne peut pas se perdre, puisque nous avons reçu en nous l'espoir qu'un jour on va être glorifié aussi avec lui dans la gloire. Ça dépasse tout l'entendement de l'Ancien Testament, et donc on nous présente ça comme l'espérance de la gloire future. Il y a tellement de garanties que Paul, quand il parle de la gloire à venir, il dit dans Romains 8, 29, « Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi glorifiés. » Et le verset de Romains 8, 29, « Il les a glorifiés », c'est au passé, donc notre passé est ici. Donc, « Il les a glorifiés. » Ceux qu'il a connus d'avance, il les a glorifiés au passé. C'est incroyable. Ça veut dire que lorsque j'ai accepté Christ, j'ai été connu dans une relation personnelle avec Dieu. J'étais connu du Père, mais je n'étais pas connu dans une relation avec lui. Je n'avais pas cette proximité avec lui. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi glorifiés au passé. Et pourtant, ma gloire est encore à venir. Mais parce que j'ai reçu celui qui est l'espérance de la gloire future, j'ai déjà cette certitude-là en moi et je suis déjà glorifié parce que j'ai reçu l'Esprit-Saint qui me fait de moi l'habitation de Jésus-Christ. Il m'a glorifié en me remplissant de l'Esprit qui a ressuscité Christ. Romains 8, 11 nous dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » C'est important. Il ne dit pas, Si vous, il dit que aussi vrai que celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, l'Esprit Saint, autant que Christ a été ressuscité d'entre les morts, autant que dans votre futur, vous serez aussi ressuscité, que vous allez avoir un corps mortel. Ça ne dépend pas de nos œuvres, ça dépend de son œuvre. Et son œuvre a été tout accomplie. Et donc, on est devenu héritier de Jésus-Christ. Et aussi vrai que cet Esprit-là qui a ressuscité Christ d'entre les morts, aussi vrai, mon corps va être ressuscité. Deuxième vérité qu'on voit dans ces passages-là, c'est qu'il y a une base sur laquelle cet esprit, l'Esprit de Dieu, m'a été donné. C'est la base d'une promesse et non pas d'un contrat. Et là, donc, on va s'appliquer à lire du verset 15 jusqu'au verset 26. Paul va montrer dans les passages suivants que quand la promesse a été faite de bénir Kevin, Jean-Claude, Ginette, Aline, ça a été fait 400 ans avant qu'il nous donne un code moral par lequel on devrait vivre ou que les Juifs devaient vivre, que nous, on n'était pas imputables d'avoir transgressé la loi de Moïse. Bien important. Donc, une promesse. Verset 15. « Frères, je parle à la manière des hommes. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Donc, une promesse qui a été faite à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « aux postérités », donc à son descendant, et non à ses descendants. Comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que j'entends. Une disposition que Dieu a confirmée antérieurement, 400 ans avant, ne peut être annulée, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. C'est ça, 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de grâce. Pourquoi donc? La loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par les anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Donc, pour pouvoir faire un contrat, ça en prend plusieurs. Pour faire une promesse, ça en prend juste un, celui qui fait la promesse. Et donc, et c'est ça ici l'argument. Alors, il continue en disant, « La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui a été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi, mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché. » Afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Verset 24. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Dans ce passage-là, c'est intéressant, il montre que la loi était nécessaire à cause des transgressions. La loi était nécessaire pour comme tuteur. fais pas ci, fais pas ça, mange au-dessus de la table. Et elle venait nous réprimander à chaque fois qu'on faisait quelque chose de pas correct. Et comme un enfant mineur, tu sais, si je veux dire, mon fils, quand il était jeune, je disais de manger au-dessus de la table, tu sais, mais si là, il est rendu à 20 quoi, là, 21? Je compte plus, moi, je compte pas mon âge. Ça fait 2 ans que je dis que j'ai 47 ans, ça n'a pas de bon sens. J'ai 46, je pense. Steph, j'ai quel âge déjà? 46, je pense, hein? En tout cas, 45? J'ai 45? OK, bon. Je m'en fous tellement, tu sais. Bon. OK, il a 22. Tu t'en vas. Hein? Il y a 20?
Il ne dépassera pas. Hein?
Mais si je dis à Nathaniel qui est rendu à 21, mange au-dessus de ton assiette, puis j'y parle, pareil comme quand il était enfant, vous allez dire, il y a quelque chose de dysfonctionnel dans cette famille-là. Hein? Il devrait savoir mieux, n'est-ce pas? Mais la loi, qui est bon, le passé par là, la loi, elle est arrivée, elle devait m'amener à un endroit où j'essayais de la faire, puis que j'y arrivais pas, puis que j'ai besoin d'un sauveur. Une fois qu'elle a fait ça, elle est un pédagogue, elle m'a amené à cette maturité où ce que je comprenais que j'avais besoin d'un sauveur. Donc, dans le temps, cette maturité-là, pour le peuple juif, c'était de se tourner vers Jésus-Christ. Donc, la loi était nécessaire, mais la promesse n'était pas donnée par la loi. C'est ça ici qui nous dit. Donc, François, hier, je suis allé souligner la fête de François Lorrain. J'avais reçu une invitation, je suis allé faire un petit tour là. Puis François, il me dit, hey, la loi, tu sais, la loi, il dit, c'est comme un thermomètre, ça. Puis il dit, le thermomètre, c'est cool, ça donne la température, mais il dit, si tu croques le thermomètre, ça ne marchera pas. Je dis, crème, c'est vrai, c'est bon, c'est un très bon exemple, je vais le ramener dans mon message. Donc, quelqu'un qui prend la loi est nécessaire pour les transgressions, elle nous dit où est-ce qu'on en est vraiment, quand même, elle nous montre si on est des transgresseurs ou si on a bien fait. Mais si tu essaies de vivre par ça, tu vas manger du mercure, est-ce que ça va bien aller? On va sûrement se ramasser à l'hôpital, n'est-ce pas? Donc, c'est ça ici, le verset 16, il nous dit, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. » Puis là, ça nous amène à un troisième point qu'on a besoin de comprendre dans notre adoption avec le Saint-Esprit dans ce passage-là, c'est le point suivant. Donc ici, c'est une. La postérité d'Abraham, c'est une postérité et c'est Christ. Le baptême du Saint-Esprit. C'est important qu'on comprenne le baptême du Saint-Esprit. Certains mouvements vont dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience qu'on doit vivre de puissance. Un baptême de l'Esprit, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Non, c'est de nous qui remplissons quelque chose. Il y a un seul baptême, Éphésiens 1:7 nous dit. Il y a un seul baptême et dans 1 Corinthiens 10:13, c'est écrit qu'on a été baptisés dans un seul corps pour former la famille de Dieu. Donc, il n'y a pas plusieurs expériences. On a plein d'expériences avec le Saint-Esprit. On a plein d'expériences, mais celle de nous être pris puis de remplir quelque chose, parce que le baptême, ça veut dire immerger dedans. C'est pas quand le Saint-Esprit me remplit puis que là, je commence à parler en d'autres langues ou que j'exerce un miracle. Donc, le baptême, c'est que c'est moi qui ai pris puis qui est immergé dedans. Et c'est important de comprendre ça ici. Le verset 27 nous dit, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Je disais tantôt que d'avoir la foi, c'était d'être fils d'Abraham, ce n'était pas une allégorie. Ça s'était accompli physiquement dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est important parce que parfois, on spiritualise toutes les promesses qui ont été faites à Abraham, puis on dit, ah, ben là, à cette heure, tout ce qui a été fait à Israël, puis on dit, à cette heure, c'est à l'Église. Fait qu'on prend tous les passages de l'Ancien Testament, puis on fait ce qu'on appelle la fausse doctrine du remplacement. On voit l'Église partout dans l'Ancien Testament, puis on s'acquiert toutes les promesses qui sont données à Israël comme ça, puis on tord le sens des Écritures. Dans ce passage-là ici, Jésus-Christ est un descendant physique d'Abraham. Okay? C'est important. Lui, il est la descendance d'Abraham, puis Dieu a dit, « Je bénirai toutes les nations par Abraham et par la postérité d'Abraham. » Donc, par Jésus-Christ, par la personne de notre Seigneur Jésus, toutes les nations sont bénies au travers d'Abraham et de sa descendance au singulier, qui est Jésus-Christ. Et, écoutez bien, Nous sommes placés, lorsque nous croyons en lui, nous sommes placés en Jésus-Christ. Et donc, ce qui est capotant, c'est qu'on est aussi la postérité au singulier, pas les, la postérité d'Abraham. Donc, Dieu choisit un homme par lequel il va bénir toutes les nations et sa descendance au singulier. Sa descendance au singulier, c'est Jésus-Christ. Et tous ceux qui placent leur confiance en Jésus-Christ sont sa descendance. Et donc, ça veut dire, non seulement on reçoit la promesse d'être béni au travers d'Abraham, au travers de Jésus-Christ, mais en plus, on devient la postérité de Christ, donc par laquelle Dieu veut bénir toutes les nations. Par quoi? La doctrine de l'adoption. Cette vérité qu'on est en train d'apprendre aujourd'hui, c'est que Dieu veut conduire plusieurs filles et plusieurs fils à sa gloire. Wow! Ça aussi, c'est un mystère. Le mystère que Jésus vienne habiter par son esprit en moi, c'est un mystère, mais un autre mystère, Paul il en parle dans Éphésiens 3, il dit « Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et aux prophètes de Christ. » Ce mystère, c'est que les païens, vous et moi, qui ne sommes pas juifs, sont co-héritiers et forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. On va le regarder sur le schéma. Donc, Christ vient, il est la postérité d'Abraham, un descendant physique d'Abraham. Il vient et qu'est-ce qu'il fait? Il nous place en lui. Il nous place en lui et donc ça n'existe plus. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Tous les hommes de la terre qui croient en Jésus-Christ sont placés, sont baptisés par le Saint-Esprit pour être placés dans Jésus-Christ qui est l'Église, le corps. On appelle l'Église le corps de Christ tellement qu'on veut illustrer qu'on est maintenant rendu une nouvelle entité. Ça, c'était un mystère, puis c'était un mystère qui était caché que les Juifs, les non-Juifs formeraient une nouvelle nation, on pourrait dire, ou un nouveau peuple, hein, et que c'est en lui que nous serions bénis, que c'est en lui aussi que Dieu nous unirait à sa personne, que c'est en lui qu'on serait choisi. Dieu choisit de bénir et d'unir des hommes à lui au travers Jésus-Christ. Et ça, il a choisi depuis toute éternité de faire ça. Et ça, c'est un mystère. Quatrième sujet que Dieu aborde au travers de l'apôtre Paul dans le chapitre 3, 29 jusqu'à 4, 11, eh bien, c'est... OK, je vais le voir plus tard. C'est l'adoption. L'adoption. C'est le sujet principal qui nous intéresse aujourd'hui parce que c'est vers là, comme si on montait une montagne. C'est comme s'il a fait toute la démarche pour nous montrer qu'on est des héritiers. L'adoption parle d'héritage. On va lire le verset... OK. Au Moyen-Orient, entre l'âge de 13 à 21 ans, lorsque le fils ou la fille avait été jugé mature assez, ou des fois c'était une règle, comme par exemple chez les Juifs, c'était la bar mitzvah, c'était 12 ans, on préparait à 13 ans. À 13 ans, c'était la bar mitzvah ou la bat mitzvah. Bar mitzvah voulait dire fille de la loi, bat mitzvah voulait dire fils de la loi. On avait reconnu que tu avais atteint une certaine maturité et tu devenais candidat à l'héritage. Avant, tu étais un enfant, tu étais mon fils, tu étais ma fille, mais alors, à cet âge-là, tu es rendu fils ou fille de la loi. Et dans différentes cultures du Moyen-Orient, entre l'âge de 13 ans et 21 ans, on donnait à l'enfant la toga, un vêtement qui montrait que la personne était rendue héritière. Elle héritait d'une partie des biens du paternel, mais aussi elle devenait candidat à l'héritage futur. Hein? Et on avait évalué donc qu'il était un fils ou une fille d'âge mûr et qui avait accès à cet héritage. Alors là, c'est les passages 29 qu'on va lire jusqu'au 4-9. J'aimerais que vous remarquiez lorsqu'on va lire le « vous » et le « nous ». Il est important ici. « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » 4.1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, c'est un enfant, mais il est encore sous des tuteurs. Okay? Il est maître de tout, mais il peut profiter de rien. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, les Juifs, afin que nous reçussions l'adoption. Regardez-le vous maintenant. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans son cœur l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature, mais à présent, bon, il y a un que, mais là, c'est parce qu'il y a un nouveau développement d'idées qu'on ne va pas adresser aujourd'hui, mais à présent, vous avez connu Dieu, et plutôt, vous avez été connu de Dieu. Donc, au début, il dit, vous êtes à Christ. Mais là, il parle à une église qui est comme Davelouville, des gens qui ne sont principalement pas des Juifs. Mais il dit, vous êtes à Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham. Comment se fait? Bien, moi, je suis un non-juif, mais parce que j'ai été placé en Christ, je suis de la descendance d'Abraham. J'ai été placé en Jésus-Christ. Donc, il leur dit, parce que vous n'oubliez pas, à l'église de Galate, ce qu'on leur disait, c'est retourne à la loi de Moïse pour te faire juif, pour pouvoir être béni. Paul leur disait, hey, oublie ça, tu n'as pas à obéir à la loi de Moïse. Tu peux être placé dans la descendance et tu vas être juif. Tu ne vas être pas juif. Tu vas être de la descendance d'Abraham. Je ne veux pas allégoriser moi-même les Écritures, si je suis capable. Donc, il dit, vous êtes à Christ, donc vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes bénis comme Abraham, même si vous êtes des gentils. Et vous êtes aussi la descendance d'Abraham, et Dieu a promis à Abraham et à sa descendance qu'il bénirait aussi toutes les nations. Donc, vous êtes le moyen par lequel l'adoption se répand dans le monde. Vous êtes une agence d'adoption. OK. Donc, Paul, dans Romains 9, je vais vous le résumer, mais il dit qu'il aimerait ça être châtié ou puni ou séparé éternellement de Dieu pour que d'autres de ses compatriotes puissent venir à Christ. Puis il dit, pourtant, c'est le peuple juif, c'est à eux, il va dire, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. Et Paul dit, j'aimerais ça payer pour qu'eux autres puissent avoir, tu sais. Puis il dit, c'est à eux qu'appartiennent l'adoption. Oh, l'adoption n'est pas juste comme quelque chose qui est individuel, c'est quelque chose qui appartient à la progéniture. Et ça, ça nous appartient maintenant. On est au top de la montagne. Vous êtes héritier, selon la promesse. Il dit, vous êtes descendant d'Abraham et héritier selon la promesse. On a dit que l'adoption, c'était l'acte par lequel une personne est établie en tant que fils et fille d'âge mûr. On se rappelle que lorsqu'un père prenait son enfant, il l'adoptait. Il faut vraiment penser différemment qu'ici au Québec, c'est qu'on adopte des gens qui ne sont pas nos enfants. Que l'adoption voulait dire de reconnaître l'enfant comme un héritier. Nous autres, on n'était pas fils et filles dans le peuple d'Israël. Hein? On n'était pas des croyants de l'Ancien Testament non plus. On n'était pas fils et filles. Mais nous, on était des esclaves. Il dit, vous étiez esclaves, vous êtes devenus des fils. Okay? C'est pour ça que dans le passage, il change du « nous » à « vous ». Et vous serviez des dieux qui ne l'étaient pas par nature. Fait que nous autres, on n'était pas fils. Fait que ce qu'on a été fait, on a été fait fils. Puis en plus, on a été rendu héritier. Deux choses en même temps. Ceux qui étaient déjà des croyants, comme Corneille, par exemple, qui était c'est un non-juif. Ceux qui étaient des juifs de l'Ancien Testament, qui avaient cru, qui étaient encore sous la loi, bien là, c'était le temps de passer de la loi à Jésus-Christ pour devenir fils et fille majeure. OK, en tout cas, c'est d'être héritier. Je veux que vous compreniez ici que le mot « adoption », à chaque fois que vous allez voir le mot « adoption », vous compreniez dans votre dictionnaire, dans votre lexique, que ça ne parle pas que je n'étais pas un enfant puis je suis devenu un enfant, mais que je suis devenu un héritier. L'emphase est mise sur l'héritage surtout. On va regarder encore le schéma tout simplement. On va aller à la prochaine acétate. Ça va me donner le temps de boire de l'eau. Merci. Éphésiens 1. OK? Un des 5 versets sur l'adoption, je vous les ai nommés à la dernière, au dernier message. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. J'ai fait apparaître le mot héritier ici, par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dans ce passage-là, en lui, je l'ai mis en gras ici. Pourquoi c'est important en lui? Parce que avant la création du monde, c'était pas nécessairement par la croix, mais puisqu'il y a eu le péché, c'est par la croix. Mais c'était par Jésus-Christ, c'était en Jésus-Christ que Dieu avait choisi de s'unir à nous. Lui, il s'incarnait, il prenait la nature humaine pour que nous, on puisse avoir la nature divine en nous. Il faisait un échange comme ça. Okay? Donc ici, en lui, ici, à cause du péché, il y a eu la croix. En lui, Dieu a choisi que ceux qui étaient en lui, lui appartiendraient. Avant la fondation du monde, il a décidé ça. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles, le but, c'est de nous présenter dans une maturité devant lui éventuellement, dans une ressemblance à Jésus-Christ. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Le mot original, il apparaît seulement 4 fois dans 2 passages du Nouveau Testament et ça ne parle jamais d'être prédestiné à être sauvé. Ce n'est pas prédestiné à être sauvé, c'est une destinée préparée d'avance. Donc, tous ceux qui ont cru ont une destinée préparée d'avance d'être des héritiers. C'est ce que le passage nous dit ici. C'était préparé, Dieu avait, avant la fondation du monde, décidé de s'unir par Christ aux hommes hein, et de faire d'eux des gens qui seraient irrépréhensibles devant lui, purs et saints, mais qui seraient aussi des héritiers, hein, selon le bon plaisir de sa volonté. Wow! Le passage nous dit qu'une personne en Christ sera présentée devant Dieu comme irrépréhensible devant lui, bien qu'il ait enlevé nos péchés à la croix, qu'il ait payé pour toutes les dettes de nos fautes, c'est seulement lorsqu'on va paraître devant lui qu'on va aussi plus avoir les marques de ce péché-là, ni les pratiques de ce péché-là en nous. Pour le moment, on est l'habitation du péché, on continue à pécher, puis on est l'habitation de Dieu en esprit, mais un jour, on va être sans notre péché, ça va être enlevé complètement, puis il va rester seulement Christ qui habite en nous, et on va être nous, mais à notre meilleur, sans le péché, et on va être irrépréhensible et sans reproche devant lui un jour. Mais en attendant, aux yeux de la justice, ça a déjà été payé, et donc je suis déjà dans la justice de Jésus-Christ. J'ai déjà la robe blanche de justice de Jésus-Christ, hein, mais je suis en train de devenir aussi un petit peu comme Jésus-Christ. Il y a d'autres passages, et on va les lire rapidement, puis on va passer à la Sainte Cène dans quelques instants. Donc, ceux qui font la Sainte Cène, préparez-vous. On va faire ça. Romains 8, 15. Je passe les 5 versets sur l'adoption. Je suis rendu, je pense, au 3e. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». On est déjà... Si ici c'est le passé, c'est quand on a cru. Quand on a cru en Jésus-Christ, on a reçu l'Esprit Saint en nous et cet Esprit crie « Papa ». Vous savez qu'avant qu'il y ait la résurrection, Jésus dans Matthieu 6, il dit « Quand vous priez, priez ainsi, notre Père qui êtes aux cieux ». Il ne l'appelle pas « Mon Père qui est dans les cieux ». Lorsqu'il dit à ses disciples de prier, il ne dit pas « Dites mon Père », il dit « Dites notre Père » parce qu'il était le Père de la nation d'Israël. Ce n'est que depuis que Jésus-Christ est ressuscité qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est seulement par sa résurrection que le Saint-Esprit peut venir puis faire de nous une nouvelle, quelqu'un qui va crier « Papa ». Mais ici, là, Abba Père, c'est Papa. C'est pas notre Père, c'est Papa. Quand Jésus est ressuscité, il a vu les gens dans le jardin, là, tu sais, quand il est ressuscité, il a dit « Allez dire... il faut que je retourne vers mon Père et votre Père. Hein? » Là, ils l'appellent leur Père. Vers mon Père et votre Père. Il y a cette résurrection qui permet maintenant qu'on puisse avoir une relation filiale de père en fils, de père en fille avec Dieu. Et donc, il y a cet esprit. Et c'est un esprit quoi? C'est important, ça. Parce que pour le moment, on n'a pas l'héritage. On a juste l'esprit de l'héritage. On a l'esprit présentement de l'héritage à venir. On a la garantie du paiement futur parce que la participation à l'héritage va être plus tard. Nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes. Puis il parle ici, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Oui, mais Jean-Sébastien, on n'a pas déjà été racheté. Oui, en esprit, on a déjà été racheté. Par contre, notre corps, c'est encore notre vieux corps de mort, puis notre âme est progressivement en train d'être sauvée. Paul dit, tu te sauveras toi-même, à Paul quand il parle à Timothée, il dit, quand tu prêches la parole, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu n'es pas sauvé, Timothée? Il était sauvé, mais il avait besoin que son âme soit délivrée, parce que le mot sauvé veut dire délivré. Et donc, il y a cette idée que le corps, il n'a pas encore reçu son rachat. Il a reçu un paiement initial, j'ai le Saint-Esprit, mais quand je vais arriver devant lui, devant sa gloire, je vais recevoir mon nouveau corps. Et j'ai eu la compte de payer, c'est le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'adoption. J'ai reçu les prémices de l'Esprit, mais je soupire. Pourquoi? Parce que je veux revêtir mon domicile céleste. Je veux avoir aussi la rédemption de mon corps. Romains 8, 23. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous avez reçu l'esprit de l'héritage, mais vous n'avez pas reçu tout l'héritage encore, lequel est un gage de notre héritage. Éphésiens 1, 13. Éphésiens 4, 30, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Oh, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On a vu que Paul, dans son passage, qui couvre quasiment deux chapitres, que ce n'est pas vrai que Dieu a regardé minutieusement votre vie, puis qu'à cause que vous avez fait une vie qui était moralement assez bonne, Dieu vous a donné son esprit et vous l'a donné parce que vous avez cru à l'évangile de la grâce. Deuxièmement, le Saint-Esprit qui nous a été donné est le résultat de ce que Dieu a fait une promesse à Abraham. Je te bénirai, toi, et je bénirai toutes les nations et ta descendance, par ta descendance. Abraham a eu des successeurs. On a vu que Christ est la descendance au singulier de Jésus-Christ. Et donc, la promesse d'être béni, moi, la promesse qu'un jour je vais avoir l'héritage, bien, c'est parce qu'elle a été faite à Abraham, elle a été faite au travers d'Abraham, au travers de sa descendance. Et je bénéficie parce que j'ai été placé. Le troisième point qu'on a vu dans le passage aujourd'hui, c'est qu'on a été baptisé en Christ et que nous sommes la descendance au singulier. Hein? Puis à la fin du message, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Dieu a fait du croyant un héritier par l'adoption, mais mon héritage futur est encore à venir. Et on va se préparer à prendre la Sainte Cène, puis quand on va avoir les éléments dans les mains, on va voir pourquoi qu'on n'a pas reçu tout l'héritage tout de suite, puis on va vraiment prendre le temps de reconnaître le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que même si Jésus-Christ n'a pas été annoncé de tous les âges, c'est-à-dire jusqu'à sa venue, et même lorsque son témoignage sera rare dans la grande tribulation, puis on n'entendra presque plus parler de lui à un moment donné, quand tous les croyants vont avoir été tués, il va y avoir encore un évangile éternel qui va être annoncé même par un ange dans les cieux. Et cet évangile éternel, c'est que Dieu veut conduire plusieurs fils et plusieurs filles à sa gloire. Mais il ne veut jamais le faire sans passer par la croix pour effacer nos fautes. Donc, on va procéder à un chant et puis on va passer des éléments.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio et vidéo et bien plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.